VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Ouverture du 28e sommet ordinaire de la Ligue arabe ce mercredi à Souaimé en Jordanie. 21 pays participent, dont 15 sont représentés par leur président ou leur monarque, notamment le roi Salman d'Arabie Saoudite. Également présent, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et son émissaire spécial pour la Syrie, Staffan de Mistura, ainsi que des représentants américains, russes et européens. Le grand absent du sommet est le président syrien Bachar al-Assad, son pays ayant perdu depuis 2011 son siège à la Ligue arabe. Les observateurs ne s'attendent pas à des décisions importantes à la réunion sur la lutte contre les groupes djihadistes Al-Qaïda et islamiques et les nombreux conflits qui secouent le monde arabe, notamment en Syrie, au Yémen et en Libye, et ce, en raison des rivalités et des divisions au sein de la Ligue. Les troubles en RDC maintenant, l'ONU a repoussé à jeudi ou vendredi son vote sur le renouvellement du mandat de sa mission de maintien de la paix dans le pays, la MONUSCO, après la découverte dans la province du Kasaï central des corps sans vie de deux experts onusiens, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaïda Catalan. Paul Nsapu, président de la Ligue des électeurs et secrétaire général adjoint de la FIDH, plaide pour des sanctions après la vague de massacres dans la région.
Par rapport aux violations graves des droits humains qui sont commises, nous demandons surtout dans les Kasaï et ailleurs aussi, nous demandons que des sanctions ciblées soient prises. Il y a par exemple ces autorités militaires et même civiles qui sont concernées par la question de sécurité au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité.
Paul Nsapu, le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général adjoint de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Au Gabon, poursuite du dialogue national lancé hier par le président Ali Bongo Ondimba et boycotté par le camp de son rival Jinping. Quelques 50 partis politiques et 1200 organisations de la société civile participent aux travaux. Nikes Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine et Développement, qui ne participe pas à la rencontre, explique son choix.
C'est pas à un dialogue avec plus de 1500 personnes ou 2000 personnes que nous trouverons. C'était peut-être une très bonne idée pour le chef de l'État, mais les personnes à qui il a désigné d'organiser ce dialogue ont décidé de tuer la poule dans l'œuf. Le quotidien du Gabonais va-t-il changer au lendemain de ce dialogue? Cherté de la vie, cherté d'eau et d'électricité, cherté des matières premières, cherté du transport. Est-ce que cela va changer? Est-ce qu'au lendemain du dialogue, les grèves vont s'arrêter définitivement dans le secteur de l'enseignement? Le Gabon a trop fait de la politique. On pense un peu à cette jeunesse qui devient un danger potentiel pour tout le monde. La jeunesse devient un danger pour la cité.
Nikes Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine et Développement au Gabon. En Zambie, le gouvernement a lancé une grande consultation auprès de sa population pour décider de l'opportunité de quitter la CPI, la Cour pénale internationale. Une initiative dénoncée mardi par les adversaires du président Edgar Lungu. Plus de détails avec Jacques Aristide.
La consultation publique faite par le truchement de réunions publiques a démarré lundi dernier et doit se poursuivre jusqu'au 31 mai. D'après le ministre de la Justice, Given Lubinda, ce n'est qu'après cette étape que la Zambie rendra publique sa décision de quitter ou non la CPI lors du sommet de l'Union africaine en juin ou juillet prochain. En réaction, l'opposant Nelson Masoni du Mouvement pour une démocratie multipartite a accusé le président Lungu de vouloir quitter le tribunal international pour échapper à d'éventuels procès. Mais pour cet opposant, le président peut toujours y être déféré. L'opposition accuse M. Lungu de fraude et de violence lors de sa réélection en 2016, mais la justice zambienne a validé depuis les résultats. La CPI, dont le siège est à La Haye, est menacée depuis des mois d'une vague de retrait de la part de plusieurs pays africains qui l'accusent de parti pris au motif que la plupart de ses enquêtes ont visé des dirigeants du continent.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, Maître Ange Rodrigue Dadier, l'un des avocats de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, acquitté hier par la Cour d'assises d'Abidjan dans son procès pour crime contre l'humanité, a salué ce mercredi ce qu'il appelle le courage des magistrats de la Cour et des jurés qui ont prononcé une décision historique dans un environnement où le politique fait souvent pression sur le judiciaire. Selon Maître Dadier, le procès a été bâclé depuis l'instruction, car, dit-il, la justice n'a jamais voulu entendre les vrais acteurs, notamment certains responsables politiques actuellement aux affaires aujourd'hui. Par contre, dans un communiqué également ce mercredi, Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York, estime que l'acquittement met en évidence la nécessité de juger Mme Gbagbo à la CPI, la Cour pénale internationale, où elle est poursuivie également pour crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois en Côte d'Ivoire. Pour un coup de projecteur sur le procès d'Abidjan, où le jury a ordonné que Simone Gbagbo soit remise immédiatement en liberté si elle n'est pas retenue pour d'autres causes, rejoignons notre correspondante en Côte d'Ivoire, Narita Namasté.
Simone Yves Gbagbo n'est pas coupable des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Telle est la décision des 3 juges et des 6 jurés qui ont mené pendant près de 10 mois ce procès, dont l'issue était très attendue. Aliyou, procureur général du parquet qui avait requis la prison à vie contre l'ex-première dame, sort de ce procès affaibli et justifie la décision du jury.
Le jury a estimé qu'elle ne devait pas être tenue coupable pour les faits de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Peut-être ont-ils voulu aussi donner un signal fort aux politiques pour la réconciliation. En tout cas, le procès s'est tenu, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'émotion qui a parlé.
Les victimes et leurs ayants droit sont les groupes aidants de ce procès. Médecin Kalo Koulibaly, avocat de la partie civile, accepte malgré lui le verdict de ce procès et s'interroge sur les questions que pourront se poser ses clients. Mais pour lui, tout n'est pas encore terminé.
Ce que nous regrettons dans cette affaire, c'est le sort des victimes. Qu'est-ce que ces victimes vont dire suite à l'acquittement de Mme Simone Gbagbo? Ça, c'est une question. Nous, en tant que professionnels du droit, nous pensons, s'il n'y a pas d'autres instructions de la part de notre mandant, nous pensons nous pourvoir en cassation pour que la haute juridiction puisse statuer sur les faits à nouveau.
Ici Akadiabi, président des associations des victimes de la crise post-électorale de 2011, qui a suivi de bout en bout ce procès, se dit déçu de la justice ivoirienne qu'il qualifie d'être à la sorte des politiques et demande l'actualisation du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Simone Gbagbo.
C'est la tristesse et la désolation pour les victimes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'elle n'a ni la capacité ni la volonté de rétablir les victimes dans leur dignité. Nous appelons à l'exécution immédiate du mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo.
Simone Gbagbo a quitté cette, mais pas pour autant libre, parce qu'elle a été condamnée déjà à 20 ans d'emprisonnement en avril 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, poursuite du procès pour complot militaire de 20 soldats qui avaient attaqué un dépôt d'armes en janvier 2016. Les prévenus sont jugés au tribunal militaire de Ouagadougou depuis hier. Claire Morin-Gibourg.
Ces militaires, dont une dizaine de membres du RSP, la garde rapprochée du président déchu Blaise Compaoré, sont poursuivis pour complot, détention illégale d'armes à feu, vol aggravé, violence et voie de fait. Arrêtés en mars 2016, ils sont accusés d'avoir attaqué le dépôt d'armes de Yimdi, des armes qui devaient servir, selon l'arrêt de renvoi, à la libération des généraux Gilbert Diendéré, l'ex-chef du RSP, et de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Suite à l'échec du coup d'État, ces militaires s'étaient enfuis en Côte d'Ivoire. Arrêtés à Abidjan et extradés à Ouagadougou, ils sont aussi poursuivis pour désertion. Maître Fako Bruno Ouattara, un des avocats commis d'office, a indiqué que beaucoup d'entre eux, dont le principal accusé, le sergent-chef Ali Sanou, risquent la perpétuité.
Au Sénégal, maintien en détention de 9 dissidents du Parti socialiste, une formation de la majorité présidentielle, après un recours du parquet contre leur remise en liberté provisoire par la Cour d'appel de Dakar hier. Le point avec John Lyndon.
Le parquet s'est pourvu en cassation contre la libération de ses 9 membres du Parti socialiste qui par conséquent restent en détention jusqu'à ce que la Cour suprême statue. Les prévenus, dont un maire d'une commune de Dakar, arrêté le 9 janvier, sont réputés proches de Khalifa Sall, maire de la capitale, inculpé et écroué depuis le 8 mars pour détournement de fonds publics. Khalifa Sall est présenté comme un rival potentiel au président sénégalais pour les élections de 2019.
Et pour terminer, sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les 27 pays membres de l'Union moins le Royaume-Uni déclarent dans leur réponse à la lettre de la première ministre britannique Theresa May officialisant le divorce de son pays avec l'Union européenne que leur priorité dans les négociations avec Londres sera de rester unis et de minimiser les incertitudes dues au Brexit.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.